Le Parti de Gauche, la radio.
Paul Ariès, nous allons parler ensemble du revenu universel. Cette mesure paraît vraiment comme une mesure à la fois très radicale, très idéaliste, dont on peut au premier abord douter. Est-ce que c'est une mesure réaliste et réalisable? Et je pense qu'il faut apporter la nuance, dans quel système?
Je crois que cette idée de revenu universel, de revenu d'existence, c'est déjà un serpent de mer dans l'histoire de la gauche. C'est-à-dire que ça fait presque 2 siècles qu'un certain nombre de penseurs, de courants militants avancent cette idée. Et puis, systématiquement, cette idée est balayée. C'est-à-dire qu'on considère que ça serait finalement un mauvais cadeau à faire notamment aux plus pauvres. Je dirais que le débat sur le revenu universel a repris une certaine importance avec la crise sociale. Parce que pour la première fois, sans doute depuis un siècle, ce qui est devant nous, ce n'est pas le développement des classes moyennes, qui a été le grand phénomène majeur du XXe siècle. C'est ce que les sociologues appellent la démoyennisation. C'est-à-dire que la fin des classes moyennes, cette génération des bacs plus 5 à 1000 euros, 1000 euros s'ils ont la chance d'avoir un boulot à temps plein, mais généralement beaucoup moins. Donc si l'on parle autant aujourd'hui de revenus sociaux, garantis, c'est déjà en réponse à cette urgence sociale. Mais c'est aussi, je dirais, une réponse à l'urgence environnementale. Parce que nous, lorsque l'on parle d'un revenu garanti, ce n'est pas à la façon des libéraux. Ce n'est pas à la façon de Madeleine, je veux dire, c'est avec cette idée qu'il va falloir transformer la société. C'est-à-dire que le revenu garanti, c'est un outil de transformation de la société. Ce n'est pas une mesure d'accompagnement, ce n'est pas de l'assistanat. Et je dirais que ce qu'il s'agit de donner avec ce revenu garanti, ce n'est pas seulement du pouvoir d'achat, c'est du pouvoir de vivre. C'est également la possibilité de reprendre le pouvoir, non seulement sur sa vie, mais sur la société, sur les entreprises. Alors, il y a un débat à l'intérieur des réseaux favorables aux revenus garantis. Certains parlent de revenu minimum, de revenu de citoyenneté, de revenu universel. Moi, je préfère parler de dotation individuelle d'autonomie. On a un certain nombre de chercheurs militants, comme Friot, qui préfèrent parler de salaire à vie ou de cotisation sociale. Les grandes confédérations syndicales, comme la CGT, parlent de sécurité sociale professionnelle. Je dirais, c'est à la fois un vrai débat. Mais en réalité, je crois que ce désaccord cache un accord plus fondamental. C'est que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut donner à chacun les moyens.
Une telle réforme dans le système économique et système politique actuel est impossible.
Je dirais qu'une réforme dans le système actuel, c'est ce que proposent les libéraux, c'est-à-dire un revenu de survie, qu'on l'estime à 400, 500 ou 600 euros par mois. Je dirais que nous, lorsqu'on envisage ce revenu d'existence, c'est un outil politique. C'est pas simplement une mesure sociale ou économique. C'est un outil permettant de transformer la société. Et je crois qu'il faut regarder de quelle manière cela. Le problème, il n'est pas financier. Je dirais, ça a été chiffré déjà par Patrick Vivray lorsqu'il était encore conseiller à la Cour des comptes. Ça a été chiffré plus récemment par Baptiste Mulondeau pour le collectif Pour. Le problème, il n'est pas comptable. La société, elle est bien assez riche pour pouvoir financer ce revenu garanti. Alors, je crois que si on revient aussi là-dessus, c'est parce qu'il faut tirer le leçon de l'échec qui était celui, j'allais dire, de la sécurité sociale. Oui. C'est au moment où la France est à genoux économiquement en 1944-45, qu'on invente la sécurité sociale. Parce que la France est debout politiquement. Le problème, parce qu'il y a eu un problème, c'est qu'on n'a pas été jusqu'au bout de ce principe de sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas généralisé à ce qui pourrait être, par exemple, la sécurité sociale du logement ou la sécurité sociale de l'alimentation. Et on a laissé la droite et la fausse gauche détricoter cette sécurité sociale, et je dirais que c'est les ordonnances de 1967 qui commencent à détricoter. Eh bien, aujourd'hui, on va bientôt fêter les 70 ans du programme du Conseil national de la Résistance, les jours heureux. Il ne s'agit pas de réécrire à l'identique. Il s'agit de s'inspirer de ce qu'avait été, la philosophie, la grande utopie du programme du CNR pour réécrire de nouveaux jours heureux.
Le libéralisme nous a conduit non pas à ce revenu universel comme extension de la sécurité sociale à tous les domaines de la vie, mais à un système de revenu minimum, vraiment du revenu de survivance. Aujourd'hui, après le RMI, ce revenu s'appelle le RSA. Quelle différence y a entre ce RSA-là et ce que serait un revenu universel ? Pourquoi est-ce que le RSA ne fait pas le boulot ? Pour quelles raisons ?
Déjà parce que ce RSA, il faut savoir que, comme beaucoup de droits sociaux, il y a plus de droits non requis que d'abus, que ce qu'on appelle la fraude sociale. C'est-à-dire qu'il y a l'échec de ce qu'on pourrait appeler l'État-providence, l'État social. Les mailles du filet sont de plus en plus larges. Deuxième chose, c'est qu'il y a en fait deux conceptions, j'allais dire, de la gratuité des services publics. Il y a deux conceptions de la solidarité. Il y a une conception d'accompagnement du système, c'est-à-dire des aides pour ceux qui sont tombés tout en bas. Ça ne va jamais, déjà, j'allais dire, sans condescendance. Est-ce que vous êtes un pauvre méritant ? Mais ça ne va jamais non plus sans flicage. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes un vrai demandeur d'emploi ou un salaud de feignant ? Donc on voit très bien comment ce revenu minimum, et d'ailleurs il porte bien son nom, il est minimum, ce revenu social d'activité, c'est tout simplement la roue de secours du système. Nous, ce qu'on essaye d'imaginer, mais c'est en construction, c'est du bricolage encore, ce qu'on essaye d'imaginer, c'est de quelle façon répartir autrement la création de richesses. Parce que je crois qu'il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'il faut rappeler que ce ne sont pas les entreprises qui font vivre les salariés. C'est les salariés qui font vivre les entreprises. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, on ne parle pas assez de l'exploitation, on ne parle pas assez, j'allais dire, de l'extorsion, de la plus-value et de sa répartition. Et puis, il y a une deuxième chose qu'il faut dire, c'est que le pacte social que l'on avait conçu avec le programme du Conseil national de la Résistance il y a maintenant 70 ans, il arrive à bout de souffle. Et quand on dit qu'il arrive à bout de souffle, c'est sûrement pas un appel à baisser les bras. C'est de dire, au contraire, la planète est bien assez riche, et la France encore plus, pour aller plus loin, non seulement dans la protection, mais j'irais dans la sécurité nécessaire. Et je dirais que pour moi, ce revenu garanti, le salaire à vie, comme dit Friot, je dirais que c'est véritablement une mesure anti-capitaliste.
Puisque tu nous reparles de Bernard Friot, qui est donc un économiste, un sociologue qui travaille aussi beaucoup sur le revenu universel. On va l'écouter sur ce qu'on abordait à l'instant, c'est-à-dire le lien entre le salaire et le travail et le fait que ce ne sont pas les grandes entreprises qui nous font vivre, ce sont les salariés qui font vivre les entreprises. On l'écoute, c'était dans une émission dont tu es très coutumier, Ce soir ou jamais, c'était le 7 juin 2013.
Si on lie le salaire à l'emploi, on donne tout le pouvoir aux propriétaires lucratifs. Et c'est pour cela que tout le mouvement syndical au cours du XXe siècle a été pour déconnecter le salaire de l'emploi et pour attacher le salaire à la personne. C'est nous qui produisons la valeur, c'est pas Arnaud ni Mittal, c'est nous qui produisons la valeur. Arnaud et Mittal, ce sont des parasites qui nous piquent.
Ce sont des parasites qui nous piquent, et donc ce revenu universel, ça revient à dissocier en fait le salaire du travail.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Bernard Friot lorsqu'il dit qu'il faut différencier l'activité et l'emploi. Alors Bernard préfère parler de travail. Moi, j'ai peur que ce terme de travail soit aujourd'hui un mot poison. C'est-à-dire qu'il nous empêche effectivement de réfléchir force d'avoir été manipulé par nos adversaires, par le capitalisme. Donc j'aurais tendance à dire, si l'on veut rompre avec cette société travailliste, ce qu'il faut opposer, c'est l'activité socialement utile. Et l'activité socialement utile, c'est pas seulement du travail productif. C'est mille autres choses. Donc dissocions l'activité de l'emploi, et à partir de ce moment-là, oui, il faut différencier également le revenu de l'emploi. Dire que le revenu doit être fondé tout simplement sur autre chose. Alors sur quoi ? Bernard Friot propose de le fonder sur la qualification. Moi, je préfère qu'on le fonde sur la qualification plutôt que sur le marché du travail. Mais le fonder sur la qualification, peut-être que provisoirement c'est indispensable, mais ça me semble un peu court sur patte, parce que je crains que derrière la qualification, ça soit finalement une sorte de retour, j'allais dire, au salaire au mérite. Moi, je préfère dire que ce salaire à vie, ça doit être un salaire égal. Et lorsque Bernard Friot, et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec lui, dit un bon exemple de ce salaire à vie qu'il faut donner ou de ce revenu garanti, c'est les retraites. Et il a raison. Moi, je rêve de généraliser ce système qui est celui des retraites. Je rêve aussi, d'ailleurs, qu'on revienne non seulement à la retraite à 60 ans, mais même à 55 ans. Mais je dirais que je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut une même retraite pour tous. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin, il faut remettre en cause l'inégalité. Il ne faut pas être seulement du côté, j'allais dire, de la justice sociale, c'est-à-dire de la répartition du gâteau. Quand on parle de revenu d'existence, de revenu garanti, c'est un revenu primaire qui est visé. Et puis je crois qu'on devrait aussi réfléchir sur la façon de concevoir ce revenu pour changer la société. Moi, j'aime bien cette idée que le revenu d'existence, ce revenu social garanti, soit donné de trois façons. Qu'il soit donné d'abord, bien sûr, une partie en monnaie européenne, nationale, en euros. Qu'il soit donné aussi en partie en monnaie locale, et pourquoi pas fondante. C'est-à-dire ce qui permettrait effectivement à des collectivités locales de battre leur propre monnaie. Et je dirais que cette monnaie locale permettrait de financer des activités à forte valeur ajoutée, sociale et écologique. Puis moi, j'aime bien l'idée que ce revenu garanti soit donné pour l'essentiel, de façon démonétarisée. Parce que ça commence à déséconomiser nos existences. Et je pense qu'on a tout à gagner aujourd'hui à lier ce combat pour le salaire à vie, pour le revenu social garanti, avec le combat pour la gratuité des services publics. Quand on parle de gratuité des services publics, c'est toujours une gratuité construite, économiquement construite, ce qui dédramatise la question de la fiscalité, culturellement, socialement, politiquement construite. Moi, j'aime bien ces maires qui interpellent la population et qui disent... qu'on ait des moyens limités qui sont les nôtres. Est-ce que vous préférez qu'on maintienne la gratuité du stationnement pour les voitures ? Ou est-ce que vous préférez qu'on adopte la gratuité de l'eau vitale ? Lorsqu'on avait organisé, avec la communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne, le premier colloque national sur la gratuité des services publics, on avait tous été estomaqués par la richesse des expérimentations. Ici, c'est l'eau vitale. Ailleurs, ce sont les services culturels. Ailleurs encore, c'est la collecte et le traitement des ordures ménagères. Ailleurs encore, c'est la restauration scolaire. Ailleurs encore, comme au moment en Sartou, c'est la gratuité des services funéraires. C'est-à-dire que je crois que l'essentiel n'est pas de savoir par quoi on commence, c'est de commencer. Parce que toutes les expériences, par exemple au Pagne, avec la gratuité des transports, montrent que lorsqu'on commence avec la gratuité, on y prend goût. Et que les gens redécouvrent, j'allais dire simplement, la société. Et tout à l'heure, tu posais la question de savoir si ce revenu d'existence, il est, j'allais dire, compatible avec cette société capitaliste. Sans doute pas. Parce qu'il est évident qu'on ne pourra pas donner l'équivalent en pouvoir d'achat de 2, 3, 4 000 euros à chacun. Parce que ça ne serait tout simplement pas mondialisable. Je dirais que ça ne serait pas universalisable. Il s'agit donc non pas de donner plus de pouvoir d'achat, mais plus de pouvoir de vivre. Et ça, on a les moyens d'agir. Imaginons... Je termine juste cet exemple, qu'au lieu de tout faire pour fragiliser les produits avec ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, on lutte contre l'obsolescence programmée et qu'au lieu de mettre l'intelligence de notre ingénieur pour fabriquer des machines à laver conçues pour casser au bout de 3 ans, on a des machines qui durent toute une vie, toute une génération. Eh bien, c'est un sacré pouvoir d'achat non monétaire que l'on donne aux gens. Et je crois que ce combat pour le revenu d'existence, le revenu universel, peu importe le vocabulaire, il est inséparable, en fait, tout simplement, j'allais dire d'une révolution globale, de la réduction du temps de travail. Il est inséparable également d'une planification écologique.
Alors, du fait qu'il soit inséparable d'un changement très fort de société, que penser quand on entend Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, proposer ceci? C'était sur un journal télévisé de France 2 en mars 2011.
Je suis pour que l'on propose aux Français un revenu citoyen qui sera proposé à tous ceux qui vivent dans la difficulté, au seuil de pauvreté, un revenu de 850 euros qui permettra justement, de façon dégressive, de garantir la dignité des Français. C'est une nouvelle approche.
De Villepin parle d'un revenu de dignité. Alors c'est un joli slogan marketing, mais c'est à côté de la plaque. Je dirais, l'enjeu, c'est pas de faire du misérabilisme. L'enjeu, c'est de répartir autrement la richesse sociale, c'est-à-dire créée effectivement par des millions et des millions de travailleurs, et c'est de changer, j'allais dire aussi, le gâteau. Qu'est-ce qu'on produit comment et pour qui. Ce qu'essaye de faire de Villepin, c'est de sauver le système, parce qu'il n'est pas idiot. Il voit très bien que ce qu'on appelait classiquement le plein emploi, eh bien, c'est fini. Et si on ne veut pas effectivement qu'il y ait de révolution, il faut réinventer les jeux du cirque, hein, du pain et des jeux. Eh bien, nous, ce qu'on propose, ça n'a rien à voir avec ça. Il s'agit de répartir d'autres richesses. C'est-à-dire qu'il s'agit de changer la façon de produire, de changer la façon de consommer, et je dirais aussi la façon peut-être d'exister. Pour moi, ce combat pour le revenu d'existence, il est inséparable de ce qui s'invente aujourd'hui aussi bien en Amérique du Sud qu'en Afrique, lorsqu'on parle d'un socialisme du buen vivir, ou lorsque la philosophie négro-africaine nous parle du plus vivre. Mais comme le dit Alberto Acosta, le père du mouvement du buen vivir en Équateur, le bien vivre, ce n'est pas le bien-être au sens de la société d'hyperconsommation. C'est-à-dire qu'il est évident qu'on ne peut pas changer simplement la répartition des revenus. Il est évident qu'il va falloir une transformation beaucoup plus radicale et qui remet en cause la propriété lucrative, qui remet en cause le capitalisme, qui remet en cause le productivisme.
Merci beaucoup, Valérie.
Merci.
Le Parti de gauche, la radio.